patriarca, patriarca, patrie, patriarca, patrie.
Le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch, cause butch. Strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight lies and whores.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille en masculin. Un garçon en
l'émission pour
déranger
une émission féministe
les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois
de 18h30
à 20h
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Je suis une fille et je fais de l'autostop, seule. Aujourd'hui, j'ai encore fait de l'autostop. J'avais à peine tendu le bras qu'une voiture pile. Déjà, je trouve ça louche. Le type, une quarantaine d'années, style coincé, propose de me déposer au péage. Je suis un peu méfiante, à cause des fois antérieures. Mais je monte quand même parce que le péage est seulement à quelques kilomètres. Il engage aussitôt la conversation en me demandant si je n'ai pas peur, comme ça, toute seule, à faire du stop. Question habituelle, mais qui n'arrive en général jamais aussi vite. D'habitude, au début de la conversation, on s'attache plutôt à essayer de créer un certain climat de confiance, une détente, et non à mentionner d'emblée le risque d'agression. Ça crée des tensions. Je lui réponds que si j'avais peur, je ne ferais pas du stop. Il me demande alors si j'ai raté mon bus, et j'avoue que cette question m'a laissé complètement perplexe, parce qu'aucune ligne de bus ne fait ce trajet. Puis comme d'habitude, je dois justifier le fait que je fasse du stop, seul en plus, en donnant par exemple le prix du trajet en train. Il trouvait que ce n'était pas si cher. Sous-entendu, il jugeait non justifié mon choix de faire du stop, que je conçois plus comme une solution ultime. Et de me dire que si c'était ses sœurs, il a deux sœurs, il leur interdirait de faire du stop. Soit disant que c'est beaucoup trop dangereux, qu'il y a plein de fous partout, et que s'il croisait ses sœurs à faire du stop, il s'arrêterait pour les engueuler. Donc, il s'autoriserait à les terroriser tout simplement parce que ce sont des filles, parce qu'il est leur frère. Il s'estime responsable d'elles, ce qui implique qu'il les juge irresponsables de leurs actes. Lui, l'homme, sait ce qu'elles peuvent ou non faire. Et ce serait comme un devoir pour lui de leur imposer sa vision des choses. J'essaie vainement, avec pédagogie, de lui expliquer que le train étant souvent trop cher pour moi, que n'ayant pas et ne voulant pas, mais c'est une autre histoire, de voiture, il ne me reste que ce moyen de transport pour les longues distances. Est-ce que c'est parce que je suis une fille que je devrais rester enfermée dans ma ville? Pour lui, sans aucun doute. Je lui demande s'il lui-même ferait du stop. Réponse, pour un homme, c'est différent. Bien sûr, ô combien il a raison. Je suis sûre que les mecs ne se font pas emmerder de façon quasi systématique par des allusions soit directes, soit indirectes, et en tout cas jamais par des discours paternalistes comme celui qu'il était en train de me tenir. Il enchaîne. En tout cas, si j'étais une fille, j'aurais une bombe lacrymo avec moi. Il y a tellement d'agressions, etc. Je me demande s'il ne va pas finir par m'égorger. J'aurais presque envie de la lui poser, cette question, histoire de détendre l'atmosphère. Mais peu à peu, il m'angoisse avec son discours sur la violence. Alors je lui précise que j'en ai peut-être une de bombe lacrymo. C'est vrai ça, qu'est-ce qu'il en sait ? Je commence à croire qu'il me teste, qu'il essaie de me faire paniquer. Et la question « vous êtes pressé » n'est pas bon signe. Bien sûr que je suis pressée, et attendue en plus. Sous-entendu, vous n'avez donc pas intérêt à m'agresser, si je n'arrive pas, mes amis appelleront la police. Il continue son délire. Paraît-il que les filles paniquent facilement, ne savent pas se défendre. Je ne laisse rien passer. À chacune de ces remarques, je réponds calmement et avec assurance. Non, je n'ai pas peur. Oui, je saurais très bien me défendre. Encore un peu, et je lui racontais que j'étais ceinture noire de judo. En fait, il est exact que quand je fais du stop, je n'ai pas vraiment peur, sinon ce ne serait pas possible. Ne fût-ce que parce que la peur m'empêcherait d'avoir du répondant à ce genre de propos, parce qu'avoir peur, c'est être dominé, c'est se poser en victime. Avoir peur m'aurait empêché de lui ordonner, avec tact mais sur un ton sans réplique, de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, tandis qu'il prétendait n'avoir pas compris où il était censé me déposer et qu'il continuait vers la nationale, dépassant l'embranchement vers le péage. Je ne saurais jamais si j'ai eu affaire à un type vraiment mal intentionné, à une ordure qui se plaît à terroriser et qui jouit du pouvoir qu'il croit en retirer, ou seulement à un paternaliste sexiste de base. Ce qui m'étonne, c'est qu'il ne m'ait pas dit explicitement m'avoir prise en stop pour me protéger et m'empêcher de me faire agresser. Je ne sais pas si j'aurai le courage de refaire dans 2 jours du stop seul comme prévu. Je ne crois pas. Je ne vois pas ce renoncement temporaire, j'espère, comme une lâcheté, mais bien plus comme la preuve que nous, les filles, sommes victimes de pressions psychologiques et sociales telles qu'elles limitent effectivement nos déplacements et restreignent notre liberté. À chaque fois que j'ai été prise en stop seule, j'ai dû justifier pourquoi je faisais du stop. Comme si c'était un acte répréhensible, à la limite de l'acceptable. La plupart de mes amis pensent qu'elles n'auront jamais le courage de faire du stop seule. Je ne sais pas s'il s'agit ici de courage, d'inconscience ou d'autre chose. Mais il est exact qu'une fille seule au bord de la route s'expose à être facilement humiliée, voire agressée. Cet acte est un signe de son autonomie, une revendication à pouvoir agir à l'égal des hommes de façon indépendante. Et c'est pourquoi ils le perçoivent comme une provocation. Les mâles n'aiment pas qu'on s'octroie leur territoire, même un tout petit bout, comme celui-ci, parce que leur pouvoir de domination diminue conséquemment. Et parfois, même ce tout petit bout partagé leur est insupportable. C'était un extrait d'un texte de Clem écrit en juin 1997 et paru dans le journal féministe Et ta sœur.
Donc, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue sur Dégenré, l'émission féministe sur Radio Kaleidoscope 97 FM. Ce soir, vous l'aurez compris, on s'est dit qu'on allait parler de stop, et notamment du coup des filles qui font du stop, et qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est pour une fille de faire du stop ? Alors, quand souvent dans l'imaginaire collectif, le stop c'est le lieu des dangers, le lieu d'un espace un peu d'inconnu et du coup de danger. Donc, on a tendance à entendre dire plus dangereux pour les filles. Nous, on avait envie de questionner ça, on avait envie d'entendre les paroles de filles qui font du stop, de filles qui font du stop seules aussi. Et comment elles vivent ça, quelles stratégies elles ont, Donc vous allez entendre tout au long de l'émission des témoignages d'auto-stoppeuses.
Voilà, donc parce que pour nous, cette question du stop, c'est bien un reflet qui est très... qui est vraiment le miroir de la société dans laquelle on est, où les rapports de genre, les rapports de domination et tout sont exacerbés. Et du coup, c'est intéressant de faire le parallèle entre ce qui se passe en stop et ce qui se passe aussi dans le reste de la société.
Et en rapport avec notre thème, on va écouter un morceau de Robotnichka qui s'appelle Disco Girls. Il était une fois dans l'Ouest. Et En gros, c'est un peu ça, c'est sur les interdits, même collectifs, dont les légendes composent aux filles, du genre « ne va pas te promener dans la forêt parce que sinon le loup va te manger ». Et là, elle dit « rien à foutre parce que moi j'ai un revolver, donc le loup a qu'à bien se tenir ».
Vous avez reçu dans votre entourage par rapport au stop pendant quand vous avez grandi, quand, dans votre jeunesse
Mais moi, quand j'étais petite, j'ai entendu beaucoup parler de stop parce que mon père faisait des stops beaucoup. Mais aussi, j'ai entendu que c'était vraiment dangereux pour les femmes et qu'il y avait beaucoup des personnes, des hommes et des femmes qui ont été kidnappés à l'Australie en faisant des stops. Dans le désert et des trucs comme ça. Moi, j'ai cru que c'était plutôt un truc qui était vraiment dangereux pour les femmes. Et on a vu des stoppeurs quand j'étais petite et ma mère ne voulait jamais le prendre.
Alors, moi, il se trouve que mon père surtout prenait toujours des stoppeurs quand j'étais petite. Donc, j'ai été en contact avec ce monde-là par ce biais-là. Et sinon, moi, de ce que je me rappelle, j'ai appris à faire du stop ou à trouver ça génial de faire du stop parce que c'était gratuit. En même temps que d'autres gens, et qu'on sait. Il n'y a pas trop l'histoire de la famille qui dit c'est mal ou c'est bien, ou l'entourage, c'est une petite bande de jeunes gens. On se retrouve à vouloir aller là, et on dit on n'a qu'à y aller en stop. Ah oui, mais comment on fait? Il faut se mettre où? Et donc.
Moi, j'ai reçu un espèce de message un peu contradictoire, vu que mes deux parents faisaient du stop quand ils étaient jeunes et tout, vu que mon père était super enthousiaste à propos de ça. Par contre, ma mère, elle en a fait beaucoup de stops, mais elle disait toujours vraiment, il y avait un ange gardien qui veillait sur nous parce qu'il aurait pu nous arriver tellement de choses et on a fait du stop pendant tellement longtemps avec mes copines et c'était dangereux, on était jeunes, on était deux filles seules et tout. Et bien qu'elle ait fait du stop, elle m'a quand même toujours dit que c'était dangereux pour des filles seules ou pour des filles en général et qu'il valait mieux faire ça avec au moins un garçon, tout ça. Et puis ensuite, la société, ouais, on m'a toujours envoyé le stop pour une fille, c'est dangereux. Mais sinon, c'est vrai que moi j'y suis venue un petit peu. Par hasard, quand on s'en à force de vivre des espèces de trucs collectifs avec des gens. Voyager collectivement, ça voulait dire voyager en stop aussi. C'était pas forcément dangereux. Puis c'est vrai que j'ai commencé à le faire avec des gens. J'ai pas commencé à le faire seul. Parce que c'était pas vraiment une nécessité. Et si je pouvais éviter d'en faire seul, j'évitais d'en faire seul. Mais...
Après, il y a l'imaginaire des gens qui prennent en stop. Moi, ça m'arrivait souvent que eux me disent mais c'est pas dangereux de faire du stop quand on est une fille toute seule. Et alors là, tu sens le poids de ça et tu te demandes d'où ils sortent ça. Au début, cette question-là, elle me surprenait et je savais pas trop bien comment répondre. Après, j'ai trouvé une espèce de stratégie qui me faisait marrer vraiment moi-même. C'était de leur demander « Ah bon ? Mais pourquoi je devrais ?» Pour renvoyer en fait à eux, que eux éventuellement ils seraient une menace. Et comme eux qui posaient la question, c'était un bon père de famille, protecteur, et ben ça renversait le truc. Et puis ben, en fait c'est un genre de pédagogie.
Moi j'ai l'impression, le message que j'ai eu par rapport au stop, c'était vraiment un truc de « Oui, le stop c'est bien, mais pas pour une fille seule quoi ». Enfin, par exemple, un truc hyper genré, parce que mon père, il avait fait du stop, alors que ma mère, jamais. Et après, du coup, je pense que peut-être mon frère, il a dit plutôt à mes parents qu'il faisait du stop, et ça allait. Enfin, il disait juste, un espèce de conseil comme ça, oui, sois prudent, ou fais attention. Alors que moi, par exemple, ma mère, ça a été vraiment des pires crises, quoi. Fallait trop pas que je lui dise, quoi. Elle m'a fait des pires... Enfin, je me rappelle de moments où c'est vraiment super fâché parce que je lui disais que j'allais venir en stop et que de toute façon, j'avais pas le choix. Enfin, je sais pas, que j'avais pas l'argent, machin, et que de toute façon, c'était un choix. J'avais pas envie de le mettre dans le train ou j'en sais rien. Et que vraiment, j'étais complètement inconsciente, que je faisais aucun effort, que j'étais pas responsable, tout ça. Et du coup, il y avait vraiment déjà un truc super différencié entre mon frère et moi. Et le message, c'était vraiment... Si t'es avec un garçon, c'est ok, c'est bien le stop, mais seul, non. Ou à la limite, deux filles, mais quand même, j'ai peur, c'est dangereux, ça va pas deux filles. Et alors, seul, c'est juste que t'es complètement inconsciente, quoi. Enfin, c'était hyper présent, quoi, sur quand j'ai commencé à faire du stop. Donc j'ai plus commencé à plusieurs. Après, j'ai l'impression que j'avais plein de copines qui faisaient du stop seul, et j'ai quand même fait du stop seul, quoi, mais...
Alors voilà, on constate une fois de plus que notre éducation, notre entourage, tout ça nous incite, nous amène à avoir peur, quoi. Donc moi je crois que ça me fait vraiment me dire, mais il faut arrêter de dire que les filles seraient naturellement craintives, facilement effrayées et tout, parce que quand on voit toutes les histoires qu'on nous raconte, effectivement moi je trouve que on gère plutôt bien là-dessus, parce que il y aurait vraiment de quoi être traumatisée par toutes ces histoires, quoi. Voilà. Du coup, je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que c'est bien une construction sociale, quoi. C'est bien un conditionnement de l'ensemble de la société qui transmet ses peurs. Voilà. Alors, on va continuer à entendre des paroles de femmes sur le stop, puisque voilà, elles sont très très révélatrices.
Alors, on va écouter dans un premier temps des paroles sur plutôt des expériences négatives pour. Mais de filles qui font du stop, qui ont continué à faire du stop, mais à qui il est arrivé des mésaventures, des choses assez désagréables et tout, donc elles en parlent. Avant ça, on aura écouté un morceau de musique, on écoutera un autre morceau de musique, et après, il y aura plus des témoignages sur comment ces filles-là, elles ont peur, ou pas d'ailleurs. Il y a aussi des filles qui n'ont pas peur. Enfin voilà, on écoutera ça.
Et sur comment on gère. Et maintenant, on va écouter un morceau d'un groupe de filles... brésilien qui s'appelle Infect et qui est un groupe stratège plutôt hardcore, et le morceau s'appelle Sociedade Masculina, non, Société Masculine, et il parle de comment on habite dans un monde fait par et pour les hommes. We'll be right back.
j'ai envie de faire une blague pour déporter le... je suis restée une fois au péage d'Orléans pendant 8 heures. Mais on était deux et finalement on a pris le train. Mais entre-temps, on avait été voir la cathédrale d'Orléans quand même. Mais là, c'est un mauvais souvenir. Après, non, c'est une blague, mais moi, j'ai, je crois, deux histoires avec des gars relous. Un qui... Mais c'était... Alors, oui, c'est toujours bizarre, quoi. Un espèce de vieux qui avait une photo de lui à Walpé, mais qui... Il a ouvert la boîte à gants pour que... Enfin, où il l'a déplacé. Je sais plus trop. C'était au niveau de la boîte à gants. Il a déplacé un truc. Ce qui fait qu'en dessous, il y avait la photo, donc qui était hyper visible. Moi, il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais la carte, une carte routière devant. Donc, j'ai rebaissé la carte, bon, pour la ranger. Je vois la photo, pouf, j'ai relevé la carte pour signifier que je voyais pas la photo. Non, je vois pas la photo. Et en fait, il arrêtait pas de me parler des jeunes garçons avec qui c'était trop agréable de passer du temps et tout, que moi, je l'intéressais pas du tout. Donc c'était un peu comme ça, et finalement il m'a laissé sur une... C'est moi qui lui ai dit, mais arrêtez-vous, enfin, c'est bon. Je dis, non mais c'est bon, là je vais arrêter là. Mais non, je connais le chemin. Et je sentais un truc pas très clair, mais en fait, il m'a laissé sur une espèce de route pourrie qui était pas du tout la bonne route. Et donc c'était un espèce de mélange où en même temps, là il y avait une situation où j'avais pu ressentir du danger, où finalement ce qui m'a le plus dégoûté, c'était pas le danger physique, mais c'était plus que j'étais... Que avec sa voiture, il était fort, quoi. C'était pas lui en tant que personne qui m'a fait vraiment le plus peur a posteriori. C'était qu'en fait, avec sa voiture, il avait pu faire 3 minutes de plus de voiture et m'emmener en fait hyper loin de là où moi j'étais censée aller. Et que là, j'avais eu l'impression de m'être faite complètement berner. Et donc par ce type qui, en plus, du coup, m'apparaissait comme un espèce de type vraiment pas très agréable. Et sinon, l'autre fois... Ah ouais, c'était en Italie. Alors là, pareil, pure nécessité. J'avais un billet Interrail, ça faisait un mois que j'étais en Europe, partout. Et paf, expiration du billet Interrail, il faut rentrer. Évidemment, je n'avais plus un radis. Donc, je rentre en stop. Et juste pour m'emmener de je sais plus quel bled à la frontière, ou un vieux gars, mais vraiment là, un papy, quoi, un pur papy, qui me dit qu'il m'emmène là. Je parlais pas du tout italien, je comprenais rien, lui il parlait que italien. Et il commence à mettre sa main sur ma jambe et tout. Et là, en fait, en français, j'ai gueulé, quoi, genre non, mais qu'est-ce que. Je sais pas quoi. Enfin bon, et il a senti la tension, il a senti que je me laissais pas faire. Du coup, il a direct arrêté. Puis... Bon, alors c'est pour dire, en fait, je sais qu'il y a des gens à qui il arrive des trucs vachement plus trash jusqu'au viol et que, bah, il se trouve que moi, ça m'est jamais arrivé. Alors après, à dire à d'autres filles, vous voyez, moi, il m'est jamais rien arrivé, donc ça va. Je trouve ça pas très juste parce qu'en fait, le risque, il existe quand même. Et en même temps, ouais, je sais pas.
Non, moi, c'est pareil, il m'est jamais rien arrivé de... de particulièrement relou, même de vaguement relou, ça m'est jamais arrivé. Quand je fais du stop, je fais quand même vachement attention à mon apparence physique, et je pense que je projette pas du tout un truc de stéréotype féminin ou pourrait attirer les hommes, mais en même temps, pas savoir quoi, je reste une fille quand même, du coup.
Mais tu disais aussi que t'avais l'impression, ou que des fois les mecs ils disaient que quand ils t'avaient pris, ils s'étaient arrêtés en croyant prendre un autostoppeur. Ouais. Du coup, ça montre que déjà quand ils sont arrêtés, ils avaient pas d'idée derrière la tête, alors que des fois tu sens le type, il aime pas spécialement les autostoppeurs. Ah, mais.
Ouais.
Ah, la jeune fille sur le bord de la route, pourquoi pas,
ouais.
Pas obligatoirement, mais pour un espèce de truc d'attraction, quoi.
Ouais.
Du coup, je me dis peut-être déjà ça trie, enfin. Enfin, moi j'ai plus l'impression que le truc, ça dépend ce que tu renvoies. Enfin, moi par exemple, les histoires reloues, pas pour toutes, mais au moins par exemple pour. Enfin, maintenant je vois comment j'ai l'impression que je pourrais les éviter. Enfin, aussi dans les trucs de règles où. Par exemple, je crois un des trucs les plus relous, parce que au final, le plus relou, c'est qu'on a. Ça nous a fait vraiment peur et c'était vraiment dégueu. C'était avec une copine. Et je pense par exemple par rapport à ce qu'on renvoyait, on était assez jeunes et on renvoyait, je pense, assez un truc de féminité, fragilité, quoi. Genre, ah, les deux petites jeunes filles, machin. Du coup, déjà, ça. Alors que moi par exemple aussi, quand je fais du stop, j'essaie de pas renvoyer cette image là en tout cas, même si j'ai l'air du fille, de pas renvoyer un peu l'espèce de truc de jeunesse, fragilité, je sais pas quoi. Et en fait, on s'est fait prendre par deux gars, et j'ai l'impression que dès le départ je le sentais mal, quoi. Une espèce de truc où maintenant je serais pas montée avec eux, mais bon, là on est montée. Et c'était deux gars, genre représentants, enfin, genre costard cravate, là, représentant en commerce, machin. Et je sais pas, dès le départ, de toute façon, ils avaient une façon de nous regarder, de se regarder, machin, qui instaurait un sale climat, quoi. Et voilà, je crois à ce moment-là, on savait pas trop comment. Réagir et à un moment ils sont arrêtés et du coup ils allaient boire un café et voilà ils nous ont proposé de nous payer un café du coup voilà on dit oui machin et là on remonte dans la voiture et ils sortent ah ben maintenant qu'on vous a payé un café on peut vous violer pour se dédommager et ils sortent ça et ils éclatent de rire les deux quoi et juste c'était horrible quoi en fait on a rien trouvé à dire enfin ils étaient tous les deux devant on était à l'arrière on s'est regardé on était super mal et on savait pas du tout enfin alors que ouais c'est pareil maintenant je verrais des trucs de répondre dire non mais c'est pas drôle, vous nous arrêtez là, ouais, je pourrais rester avec vous, enfin des trucs de poser des limites, mmh. Alors que là en fait on a rien dit mais rien de rien quoi, et on s'est juste regardé, on était super flippés quoi.
Parce qu'en fait là pour le coup vous étiez dans un... vous disiez mais peut-être c'est ça qui nous attend.
Ouais parce que, enfin tu sais ça faisait la blague mais pas juste la blague, enfin que s'ils faisaient la blague c'est qu'ils en avaient l'idée et qu'il y avait tout ce truc. Puis je sais pas, ouais j'en sais rien, je les sentais pas, enfin je sais pas, cette espèce de truc où vous voyez quoi les mecs des fois quand ils te regardent et tu sens qu'ils te regardent comme bout de chair, tu sais genre ils te mettent dans les seins, enfin genre de conneries quoi, où il y avait tout un truc où de toute façon je les sentais, les espèces de, tu sais les deux bons gars vicieux dégueux quoi. Et en fait heureusement de toute façon ils devaient nous poser vite et du coup on n'a rien dit et finalement on dit bah voilà vous nous posez là mais de toute façon c'était prévu et en fait il s'est rien passé de plus mais après on était juste trop mal tout le reste du trajet et puis cette espèce de truc de rien avoir trouvé à dire enfin c'était flippant en fait cette espèce de machin ouais à ce moment là je voyais pas trop si c'était mis à faire en fait j'ai l'impression que du coup s'ils avaient essayé quelque chose on n'aurait pas réagi parce que rien qu'à la blague on n'avait pas su quoi dire enfin espèce de machin Ou du coup, moi, après, ça m'avait mis mal. Et je crois que c'était un autre complice avec la même copine, quoi, la même période. Et pareil, deux mecs. Et du coup, après, depuis, je me suis dit que je ne montais plus jamais avec deux mecs, quoi.
Est-ce que vous avez ou vous aviez, quand vous avez commencé à faire du stop, ou vous avez encore des peurs particulières?
Ouais, toujours un petit peu, mais c'est parce que... C'est vrai qu'il y a toujours un petit peu... Il y a toujours un risque, quoi. Faut pas non plus dire qu'il y a aucun risque dans le stop. Tout, c'est une question de... d'être prêt à mesurer ce risque et essayer de le calculer, quoi.
Moi, j'ai peur de la nuit encore. Donc l'année dernière, j'ai fait du stop seul sur une petite distance au moins deux fois par semaine. Et en fait, j'ai commencé à l'automne. Et puis l'hiver est arrivé. Et je me suis rendu compte que j'avais pas le même rapport quand la nuit était tombée. Ça voulait dire qu'il fallait que je parte vachement tôt parce que la nuit tombait à 5h30 et j'étais censée partir dans la soirée, quoi. Et en fait, je me rendais compte que des fois, je me faisais prendre évidemment par la journée. Et puis d'un coup, c'était le soir, il faisait nuit. Et là, je sentais que j'avais un peu peur. Ou en tout cas, que j'appréhendais ou que c'était pas aussi simple. Alors que le jour, pour moi, est vraiment un allié. J'ai pas peur le jour.
Avant, j'avais vachement peur de tout ce qui m'a pris, en fait. Et j'étais vraiment, vraiment paranoïaque. Mais maintenant, je crois que... Je connais la différence entre les situations dangereuses et les situations qui sont juste un peu relou, mais pas forcément dangereux pour moi. Comme maintenant, quand on me propose d'avoir le sexe ou quelque chose comme ça, je vais dire non, c'est bon, ou ça m'intéresse pas, ou peut-être je vais partir, ça dépend sur le mec. Mais je trouve que c'est plus dangereux quand il dit rien et il a un comportement bizarre. Et maintenant, j'ai plus peur quand les mecs sont comme ça et je fais la différence dans ma tête. Et...
C'est vrai que moi, je dois dire que ce qui me fait plus peur, c'est quand même ouais, la vitesse. Où, j'ai plus peur de ça que de me faire agresser.
Ben, moi, maintenant, je crois que c'est aussi ce qui me fait le plus peur. Enfin, c'est relatif, mais en fait, j'ai l'impression que moi, ma peur, c'était un truc un peu évolutif, quoi. Où maintenant, j'ai l'impression que ça va, alors qu'au début, je sais plus où il m'est arrivé moins. Une fois, c'est jeune, un truc chiant avec une copine, alors que justement, à deux, j'avais pas trop peur. Mais finalement, les fois où j'ai des trucs relous, enfin gérables, c'était finalement qu'on était deux. Et peut-être aussi parce que j'étais moins sur mes gardes, ou justement, maintenant ça va mieux, mais au début, je faisais du stop seul, c'était vraiment pas un plaisir, parce que j'étais hyper sur mes gardes, et du coup, je réfléchissais à fond. J'étais stressée de ça en me disant, oui, je vais avoir l'air sûre de moi, enfin, en étant dans plein de règles, en faisant attention à qui me prenait... Je montais pas avec n'importe qui, enfin en fait un peu plein de trucs, du coup c'était vraiment pour le côté juste de besoin de faire du stop, mais il y avait vraiment aucun truc de plaisir, quoi, de rencontre ou je sais pas quoi, quoi. C'est vraiment bon bah j'ai pas de thunes, j'ai besoin d'aller là, ok je vais faire du stop toute seule, quoi. Enfin à part quand c'est des femmes qui me prenaient, mais ou des couples... Mais du coup, par exemple, une des techniques c'est que j'essaie à fond de forcer les femmes à me prendre, enfin plutôt au péage, quoi, quand tu peux parler aux gens. Et ça, c'est pas mal. Et des fois, ça marche, quoi, où tu laisses pas vraiment le choix, où justement, j'essaie de jouer sur le truc. Allez, soyez sympa, je suis une fille, je suis seule, machin. Et, Enfin, puis qu'après, en fait, j'ai aussi entendu d'autres récits de filles qui avaient eu des agressions en stop, des trucs comme ça, enfin, qui faisaient à un moment... j'évitais vraiment d'en faire seule. Et je sais pas, j'ai l'impression, après, d'avoir fait... d'avoir plus réfléchi à des trucs d'autodéfense avec d'autres. Maintenant, ça va mieux, quoi. Même si c'est pas vraiment... Enfin, que j'aime pas ça, en fait, quoi. Je trouve ça plutôt un truc de l'ordre de l'utilitaire. Mais je pense que par rapport à d'autres qui me parlent, que genre, elles aiment bien faire du stop, moi, vraiment, ça me plaît pas, quoi. C'est vraiment utilitaire, juste. Parce que je pense qu'il y a quand même un peu ce stress, quoi, où du coup, j'ai l'impression d'être tout le temps sur mes gardes. Et en fait, c'est fatigant d'être tout le temps sur ses gardes, quoi.
Et pour moi, c'est aussi utilitaire. Il se trouve que j'aime bien ça aussi. Mais que, par exemple, je sais que je choisis quand même... on choisit jamais complètement, mais il y a des critères pour moi de voitures dans lesquelles je monte pas, quoi, et que je préfère dormir sur le bord de la route et puis pas arriver à l'endroit où je dois arriver plutôt que d'avoir à justement prendre n'importe quelle bagnole qui passe et... Donc c'est de l'utilitaire, mais pas poussé à l'extrême de c'est utilitaire, je dois y aller, j'y vais. Je m'arrange toujours justement pour savoir que c'est un moyen de transport. Comme il y a des grèves de train, et ben des fois il y a des grèves de stop et que bon, bah c'est pas grave, ça fait partie du mode de transport.
Ouais, c'est vrai, enfin, c'est ce que je disais par rapport à l'évaluation des risques, quoi. Il y a tout à fait moyen de refuser de monter dans une voiture. Moi j'ai déjà fait, et... surtout seul, quoi. Il y a des voitures, je le sens pas et je monte pas.
Et moi je trouve que c'est même pas la peine de donner une raison, tu peux juste dire ah non merci, parce que s'ils sont de relous, forcément ils sont de relous, et t'es pas obligé de donner une excuse pour ne pas monter dans la voiture.
Bah moi, par exemple, je fais jamais du stop toute seule. Donc ça doit être que j'ai peur. Mais je l'analyse même, en fait, parce que j'ai décidé que voilà, c'était comme ça et que c'était pas grave. Et que la plupart, et que en plus, en vrai, souvent, je voyage avec des gens ou avec des copines ou quoi. Et du coup, qu'on s'arrange. Enfin, moi, faire du stop avec des copines, c'est cool. Mais je n'ai jamais. Enfin, les fois où je dois me déplacer seule, je ne fais jamais de stop. Et je l'ai fait une seule fois et ça s'est hyper bien passé. C'est dans une région que je connaissais bien, le trajet je le connaissais et tout, enfin, ça me rassurait. Et puis en vrai c'était relou le bus, du coup j'ai fait du stop et ça s'est super bien passé, j'ai eu aucun souci et tout, vraiment relou.
Ah, moi je dois dire que je préfère éviter, mais en même temps c'est différent aussi de faire du stop seul. Ouais, t'es peut-être plus sur tes gardes, mais du coup moi ça me permet d'avoir des discussions plus intéressantes avec les gens. Alors que souvent quand je fais du stop à plusieurs, je me repose sur l'autre personne avec qui je voyage pour la discussion.
Vous écoutez Dégenré, l'émission féministe sur Radio Kaleidoscope 97 FM.
Donc voilà, on a entendu différentes pratiques de femmes en stop et du coup différentes manières aussi de gérer que ce soit des peurs ou des fois des appréhensions ou simplement la relation à cette pratique-là. Et du coup... nous, ça nous semble des stratégies aussi qui sont intéressantes de manière plus générale dans la société, parce que on nous inculque des choses qui transmettent de la peur et tout, et du coup de toute façon c'est une donnée qu'on vit tous les jours, donc c'est comment on fait avec. Et du coup il y a un texte très intéressant qui articule un peu toutes ces idées.
Alors je vous propose de lire ce texte, donc, qui est un texte de Catherine Roussos. Je suis féministe, radicale, d'origine américaine. Radicale dans son sens d'origine, qui va jusqu'aux racines de la domination de l'homme sur la femme. Il est nécessaire de parler des violences que l'on subit quotidiennement à cause de notre sexe. Mais il est important aussi de ne pas laisser la menace des violences influencer nos choix dans la vie. Personnellement, je fais ce que je veux, même ce qui est dangereux pour une femme seule. J'apprends à me défendre et j'en suis fière. Leçon pour faire de l'autostop sans se faire violer. Leçon numéro 1. Se faire respecter, c'est être agréable, mais neutre. Parler beaucoup et faire parler pour voir avec qui tu es. Développer une personnalité en relation avec lui. J'aime bien jouer, par exemple, à la petite sœur innocente et gaie, ou bien à la nonne asexuée et sombre. Mais surtout ne jamais montrer ni de faiblesse, ni d'angoisse. Leçon numéro 2. Ne pas hésiter à mentir. Dire que l'on est catholique, musulmane, vierge, homosexuelle, mariée, attendue dans la prochaine ville, au choix. Le mensonge doit être adapté aux valeurs de la personne, sinon ça peut l'enflammer. Mais un mensonge bien placé au début peut prévenir une confrontation. Leçon numéro 3. Faire attention à la route. S'il n'a pas l'air sympa et qu'il veut prendre un raccourci, descendre très vite en prétextant n'importe quoi. Par exemple, « je vais vomir » m'a servi très bien, plusieurs fois. Il s'est arrêté par réflexe et tu te casses, quoi. Ironique, est-ce que vous savez que la plupart des victimes sont violées non pas par des inconnus dans la rue, mais par des hommes qu'elles connaissent? Or, on conseille souvent aux femmes de ne pas marcher seules dans certains endroits, mais accompagnées par des hommes qu'elles connaissent. Est-ce vraiment pour notre sécurité? Mes périples. Seule, avec mon violon, j'ai fait du stop et du camping sauvage un peu partout dans le monde. Je me suis forcée d'aller au-delà d'un conditionnement qui pollue mon esprit d'aventure. Il m'est arrivé de sauter d'une voiture qui roulait, mais ça c'est une fois sur 300. Je juge le conducteur avant de monter, je prévois les problèmes. Être autostoppeuse, c'est un peu se former à la psychologie. C'est aussi être comédienne. On m'a dit aussi que voyager seule en Tunisie n'était pas possible. Moi je suis partie seule et j'ai vu que c'était vrai. N'importe où dans le sud, un homme m'abordait toutes les 30 secondes. Que faire? Les repousser, c'était trop fatigant. Donc j'ai décidé de faire mon choix. Dès qu'il y avait une invitation intéressante d'un pas vieux qui me paraissait sympa, je passais la journée avec lui. Le lendemain, je marchais dans la rue et je choisissais, parmi toutes les invitations, un autre mec. Ainsi, j'ai vu des endroits magnifiques et des gens du pays que je n'aurais pas vus en tant que touriste normal. Ces hommes m'ont souvent amené dans leur famille, qui m'ont montré du respect et de l'hospitalité. Je n'ai couché avec aucun, et ils n'ont jamais insisté. J'aurais pu aussi faire comme Isabelle et Bernat, une grande exploratrice du Sahara vers 1900. Elle se déguisait en cavalier indigène. Ma conclusion. Il faut lutter concrètement et collectivement contre les violences faites aux femmes, et beaucoup en parler. Mais il faut aussi ne pas laisser la possibilité des agressions limiter nos choix. Les gens bien intentionnés qui disent que ceci ou cela est trop dangereux pour une femme m'ont fait beaucoup plus de mal que ne l'ont fait les agresseurs. Ces derniers ne sont que la police, qui renforce les politiques décidées par ces gens bien pensants, qui décident quand une femme dépasse les limites acceptables établies. Ils propagent ces limites pour notre sécurité, ils veulent qu'on reste à notre place. S'ils nous disent que quelque chose est dangereux et qu'on le fait quand même, ce sera notre faute si on se fait harceler, violer, assassiner. Mais en réalité, c'est à nous seuls, de décider de notre place.
Cars and girls, no girls in the car.
Voilà, donc c'était un texte sur un petit peu les stratégies de... voilà, je parle beaucoup trop fort. Il y a un problème de micro ? Non, ça devrait aller. Excusez-nous pour ce petit incident technique. On avait des retours bizarres en studio. Oui, donc je disais que le texte qu'on a entendu, donc c'est bien sur cette question de à un moment donné savoir comment on peut gérer des situations, même si on sait qu'elles sont difficiles à la base. Parce que il y a la première étape, c'est la prise de conscience. Ok, on a conscience qu'on se confronte à des situations dangereuses, mais on en fait le choix. On en fait le choix parce que juste on a envie de voyager, parce que dans la vie on a envie de sortir, de faire des choses, et qu'à un moment, pour nous, cette prise de conscience des dangers, c'est pas pour finir à s'enfermer chez nous, quoi. Donc c'est ce qu'on a envie de dire, et du coup je trouve que cette personne, je sais pas quel est son statut, mais américaine,
cette féministe radicale,
c'est une féministe radicale américaine, je trouve qu'elle décode bien ça, et ça c'est, on le retrouve aussi dans le livre de Virginie Despentes, dont j'aimerais bien après vous lire un extrait. Mais je crois qu'on avait aussi envie de continuer sur des anecdotes qui font référence à cette peur, et comment aussi de la peur ça peut se transformer en des choses positives, quoi.
Alors tout de suite, notre technicienne a bondi hors du local technique pour venir vers un micro pour nous raconter une anecdote exclusive de donc Leïla. Tu as une histoire par rapport au stop.
Oui, et donc moi j'étais en Allemagne une fois, et c'était un peu minuit, c'était un peu au milieu de rien, et je me suis trouvée au bord de l'autoroute, et il n'y avait personne, et j'ai vu une voiture qui a fait le tour, et donc du coup j'ai cru que peut-être qu'il m'a suivi, et du coup je me suis cachée dans un trou. Et il a sorti un grand espace de lumière, et du coup, j'ai couru, et il a continué de me suivre, et moi, j'avais trop, trop, trop peur. Et du coup, il y avait personne, il n'y avait aucune chose, sauf qu'une bordelle avec une grande espèce de lumière rouge en cœur. Et donc...
À l'entrée de la ville, donc.
C'était vraiment dehors de la ville, ouais. Ouais, ouais. En fait, c'était un peu... Oui, c'était comme 2 heures de marché de la ville, quoi.
D'accord.
Et du coup, je me suis cachée.
Tu dis que t'étais vers un bordel, c'est-à-dire un endroit de prostitution, comme il y en a en Allemagne. Oui, non, mais je resitue pour...
Parce qu'en France, c'est vrai que ça n'existe pas forcément, donc...
Oui. C'était vraiment un bordel. Et je savais ça. Et du coup, je me suis cachée sous les buissons, et j'ai vu une voiture vient, et je me disais, ah merde, il faut vraiment vraiment que je sorte de cette situation, mais c'était pas la même voiture. Et puis j'ai approché le mec et je lui ai demandé s'il veut bien m'amener quelque part après qu'il a fini visiter dedans, et il m'a dit oui, je voudrais bien, en fait je peux faire maintenant. Mm-hmm. Et donc il m'a amené dans une station d'essence, il est parti, et puis il est revenu 20 minutes plus tard, et moi j'avais trop peur, je voulais pas faire le stop, pas du tout. Et puis il m'a dit, ah, est-ce que tu veux bien que je t'amène à la prochaine station d'essence? Et je lui ai dit, ah oui, mais bien sûr. Et il m'a dit, ah, je savais pas si peut-être tu aurais eu peur parce que j'étais dans cet endroit-là. Et je lui ai dit, mais non, moi, en fait, j'ai déjà travaillé comme travailleuse du sexe à Montréal. Et je travaille... Mais avant, je lui ai dit que je travaillais à Stella aussi. Et donc, je connaissais les clients aussi. Et j'avais pas du tout peur de lui. Et lui, il était vraiment chouette. Et il me dit, ah, ça m'est jamais arrivé une situation comme ça. C'est trop bizarre. Je lui ai dit, fais-moi confiance. Pas... Moi non plus. Parce que... Oui, parce que je ne travaille pas en faisant du stop. J'ai commencé le stop avant que je commence le travail du sexe. Et pour moi, c'est un truc séparé. Plutôt. Donc, c'est... Ouais. Donc, c'était vraiment bizarre comme expérience. Et lui, il se sentait vraiment toute seule. Et je lui ai dit, mais tiens, on va boire un coup ensemble. Et j'ai parlé avec lui par rapport à mes voyages. Et il était vraiment chouette et sympa. Et ouais, il était plutôt timide, quoi. Et je lui ai dit, mais si tu sors jamais de cette ville, tu peux m'envoyer un mail et je peux te donner le contact. Il était vraiment content et c'était vraiment chouette comme expérience.
Ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est que tu pars d'un moment qui était vraiment super flippant, où tu as eu très, très peur et que finalement, t'es rendu compte ouais. que t'as surmonté cette peur-là et ton aventure, elle s'est transformée en une aventure positive, quoi. Alors oui. qu'elle est partie qu'au départ de l'aventure, c'est plutôt assez flippant. Là, comme tu dis, digne d'un film américain, tu te planques dans les buissons.
Oui, et pour moi, je trouve que les expériences chouettes sont encore plus chouettes quand il suit une expérience vraiment effrayante. Et du coup, pour moi, le fait de faire le stop, c'est un truc... on expérience pas le peur qu'on expérience et les hauts et les bas, je sais pas si je peux dire ça.
Oui.
On n'expérience pas les trucs comme ça dans notre vie normale, dans notre société de développer. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, dans les sociétés occidentales et tout. Occidentales, ouais. On n'a pas d'habitude cette appréhension-là de situations dites dangereuses.
Ouais.
Comment ça permet de surmonter ça, quoi.
Ouais, c'est puissant, ouais. Je trouve. Si on réussit, je sais pas. Mais j'ai jamais eu une très mauvaise expérience encore, donc.
Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est comment aussi, je trouve, ça... C'est ça, cette histoire-là, elle démonte plein de préjugés, parce que là, il y a tous les éléments, tu te dis un bordel, alors tu te dis, tu vas te retrouver en face de personnes super violentes, agressives, je sais pas, enfin, dans des préjugés qu'il peut y avoir autour de ça. Et en fait, ben, juste, au final, il y a une rencontre humaine qui est chouette, entre une personne qui fait du stop et qui, par ailleurs, est travailleuse du sexe, entre un mec qui va à un bordel et machin.
Oui, c'est clair. Ouais. Moi, j'avais pas trop peur de lui, je crois que j'avais plus peur de gens... avec la lumière.
Ok. Et du coup, moi, je trouve que c'est intéressant ce truc aussi justement de voir comment les peurs, on peut les dépasser, comment finalement on peut aller au-delà de ses préjugés. Et je trouve que le bouquin de Virginie Despentes, son dernier bouquin qui s'appelle donc King Kong Theory, dont on vous reparlera, c'est sûr, lors de prochaines émissions, parce que c'est vraiment très intéressant. Elle parle d'elle, de ses expériences, et elle analyse tout ça de manière aussi politique et tout, et c'est vraiment bien.
Et avec une énergie et un style hyper dynamique et vraiment une écriture hyper punk, qui en fait un livre théorique, hyper agréable à lire quand même, ce qui n'est pas tous les jours avec les livres théoriques. Vraiment, merci beaucoup Virginie Despentes. Hein.
Voilà, donc on vous en reparlera. Il se trouve qu'il y a, elle raconte en fait un épisode de sa vie qui est directement lié au stop, qui est donc un épisode pas facile, mais où on voit aussi comment elle gère tout ça. Juillet 86, j'ai 17 ans. On est deux filles en mini-jupe. Je porte des collants rayés et des Converse basses rouges. On revient de Londres, où on a dépensé en disques, teintures et divers accessoires cloutés tout l'argent qu'on avait en stock. Donc, plus une thune pour le voyage retour. On galère pour rejoindre Calais en stop, ça nous prend toute la journée. Puis pour payer le ferry, en faisant la manche directement à côté des guichets. Quand on arrive à Calais, la nuit est déjà tombée. Pendant la traversée, on a cherché des gens en voiture qui nous rapprocheraient. Deux Italiens plutôt beaux, qui fument de l'herbe, nous conduisent jusqu'aux portes de Paris. On se retrouve en pleine nuit à une station essence, quelque part sur le périphérique. On décide d'attendre que le jour se lève, et les routiers avec, pour trouver un camion qui irait direct sur Nancy. On traîne sur le parking, dans le magasin, il ne fait pas tellement froid. Voiture de trois Lascars, blanc, typique banlieusard de l'époque, bière pétard. Il est question de Renaud, le chanteur. Comme ils sont trois, dans un premier temps, on refuse de monter avec eux. Ils se donnent la peine d'être vraiment sympas, faire des blagues et discuter. Ils nous convainquent que c'est trop bête d'attendre à l'ouest de Paris alors qu'ils pourraient nous dropper à l'est, là où ce sera plus facile de trouver quelqu'un. Et on monte dans la voiture. Des deux filles, je suis celle qui a le plus bourlingué, la plus grande gueule, celle qui décide qu'on peut y aller. Au moment où les portières claquent, cependant, on sait déjà que c'est une connerie. Mais au lieu de hurler « on descend », les quelques mètres où il est encore temps, on se dit chacune dans notre coin qu'il faut arrêter de paranoïer et de voir des violeurs partout. Ça fait plus d'une heure qu'on parle avec eux. Ils ont juste l'air de branleurs, amusants, vraiment pas agressifs. Cette proximité, depuis, parmi les choses indélébiles.
corps d'hommes dans un lieu clos où on est enfermé avec eux, mais pas semblable à eux. Jamais semblable avec nos corps de femmes. Jamais en sécurité. Jamais les mêmes qu'eux. Nous sommes du sexe de la peur, de l'humiliation, le sexe étranger. C'est sur cette exclusion de nos corps que se construisent les virilités, leur fameuse solidarité masculine. C'est dans ces moments qu'elles se nouent. Un pacte reposant sur notre infériorité. Leur rire de mec, entre eux. Le rire du plus fort, en nombre. Pendant que ça se passe, ils font semblant de ne pas savoir exactement ce qui se passe. Parce qu'on est en mini-jupe, une cheveu vert, une cheveu orange, forcément on baisse comme des lapins. Donc le viol en train de se commettre n'en est pas tout à fait un. Comme pour la plupart des viols, j'imagine. J'imagine que, depuis, aucun de ces trois types ne s'identifie comme violeur. Car ce qu'ils ont fait, eux, c'est autre chose. Avec un fusil contre deux filles qu'ils ont cognées jusqu'à les faire saigner, pas du viol. La preuve, si vraiment on avait tenu à ne pas se faire violer, on aurait préféré mourir ou on aurait réussi à les tuer. Celles à qui ça arrive, du point de vue des agresseurs, d'une manière ou d'une autre, ils s'arrangent pour le croire, tant qu'elles s'en sortent vivantes, c'est que ça ne leur déplaisait pas. Parmi les réactions que le récit de mon histoire a suscitées, il y a eu celle-ci. Et tu as fait du stop encore après ? Parce que je racontais que je ne l'avais pas dit à mes parents, de peur qu'ils me bouclent à triple tour pour mon propre bien. Parce que oui, j'ai refait du stop. Moins pimpante, moins avenante, mais j'ai recommencé. Parce qu'à l'époque, voir des concerts était plus important que tout. Justifiait de se mettre en danger. Rien ne pouvait être pire que rester dans ma chambre, loin de la vie, alors qu'il se passait tant de choses dehors. J'ai donc continué d'arriver dans des villes où je ne connaissais personne, de rester seule dans des gares jusqu'à ce qu'elles ferment, pour y passer la nuit, ou de dormir dans des allées d'immeubles en attendant le train du lendemain. De faire comme si je n'étais pas une fille. Et si je n'ai plus jamais été violée, j'ai risqué de l'être 100 fois ensuite, juste en étant beaucoup à l'extérieur. Ce que j'ai vécu à cette époque, à cet âge-là, était irremplaçable. Autrement plus intense que d'aller m'enfermer à l'école, apprendre la docilité, ou de rester chez moi à regarder des magazines. C'était les meilleures années de ma vie, les plus riches et tonitruantes. Et toutes les saloperies qui sont venues avec, j'ai trouvé les ressources pour les vivre. Voilà, donc c'était... King Kong Théorie de Virginie Despentes, avec voilà, tout ce que ça amène aussi, ben, de gestion de situations comme ça.
Moi, je trouve que ce qu'elle dit là, ça rejoint un peu ce que dit Catherine Rousseau, la féministe américaine dont je parlais tout à l'heure, ou une autre féministe dont elle parle dans le livre. En gros, toutes les trois, ce qu'elles disent, c'est oui, c'est un risque. Effectivement, ce monde est un monde violent, patriarcal, dans lequel des hommes violent des femmes. Mais sachant cela, je ne vais pas pour autant rester à la maison, quoi. Je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est un risque que je vais prendre. Alors après,
Tout en luttant contre, et tout en faisant en sorte
que ça ne nous arrive pas, en se défendant et tout ça. Mais je trouve ça intéressant, en fait, ce truc de dire... en fait, de ne pas se laisser... abattre par cette peur du viol, en fait, que la vie elle est plus forte, et que ce que je trouve hyper intéressant, enfin ce serait un sujet en lui-même, le viol et tout, hein, c'est un sujet dur et très compliqué, mais ce que je trouve intéressant vachement dans Virginie Despentes et dans ce livre là c'est oui, j'ai été violée, mais j'ai continué à vivre après, j'ai survécu et avec une patate d'enfer, et j'en ai fait des choses, quoi, et je suis pas juste j'étais pas juste une petite victime à moitié morte, quoi. Enfin, j'étais vivante.
Et qui a dû s'écraser et à qui tout le monde dit, bah écoute, maintenant que t'as vécu ça, t'as qu'à t'écraser, quoi.
Voilà, non, je continue et puis je continue à prendre des risques et je continue à vivre et je trouve ça hyper intéressant, quoi. Mm-hmm. Maintenant, ça fait un bout de temps là qu'on discute, alors on va faire une petite pause musicale. Leïla, tu veux un peu nous expliquer quel morceau on va écouter ?
Oui, on va écouter Mascotte Key et on croit que c'est un propos de faire du stop. C'est par un groupe de femmes. Et oui, c'est à propos le stop, c'est à propos être dans une voiture qui roule vraiment vite avec les connards qui font leur voiture vraiment vite et qui conduisent leur voiture vraiment vite et qui passent de la musique de merde pendant.
« can take me where you want me, can use me for your joy.
Going on the motorway, 5 hours in a red car, listening to just one tape,
just one tape,
words which I just can't stand.
Que vous avez, vous mettez en place pour avoir moins peur ou pour stopper une agression ou pour se rassurer.
Alors par exemple, moi j'ai arrêté de faire du stop avec les routiers. À un moment c'était très pratique, ils font des grandes distances. Et voilà, alors il y a aussi la législation qui a un peu changé, que maintenant c'est plus chaud pour eux, pour des questions de sécurité, de prendre des gens en stop. Mais alors, donc dans ma jeunesse... j'ai fait beaucoup de stops avec des routiers et alors c'était jamais passé des trucs trash, mais quand même à peu près 1 sur 2 au bout de 28 secondes me parlait de cul. C'était quand même on sent que c'est quand même un truc qui est pour eux assez important. Donc les histoires qu'ils racontaient souvent, c'était telle fille qu'ils avaient prise en stop et qui était trop chaude et qui voulait trop baiser avec lui et que du coup il s'était arrêté dans la forêt, c'était trop bien. Et à me dire ça à moi qui était une meuf toute seule avec eux, et donc c'était quand même assez clair. Et donc dans ce temps-là, ce que j'ai développé comme truc qui s'est révélé assez efficace pour couper court à ce genre de truc direct, c'était si on commençait à causer un petit peu, à échanger, mais vous venez d'où, machin. J'avais toujours un rapport, je disais toujours un truc avec mon père. Alors soit vous ressemblez à mon père, soit ben mon père aussi vient de cette région. Et moi ça me renforçait parce que j'avais l'impression que un vieux gars, quand une jeune fille lui dit qu'il ressemble à son père, ça peut pas l'exciter, quoi. Et donc après j'étais hyper plus tranquille et ça allait bien, et c'était surtout pour m'éviter ces moments qui étaient pas vraiment c'était désagréable, mais c'était pas des moments où je me sentais vraiment en danger, mais en tout cas c'était des moments que je trouvais hyper chiants où on parlait de cul, quoi. Moi j'avais pas envie de parler de cul, et encore moins avec eux. Donc
enfin, moi vachement c'est aussi la façon de m'habiller quand je vais faire du stop, quoi, clairement. Enfin je mets des habits larges ou je sais pas, enfin... Après, bon, voilà, dans la vie, je corresponds pas à un stéréotype féminin, je sais pas quoi. Mais là, à chaque fois quand je fais du stop, je fais toujours quand même un peu attention. Même quand j'étais plus féminine, quand j'étais plus jeune, je faisais quand même assez attention à ce que je mettais un peu. Et puis, la stratégie, ouais, moi j'ai toujours eu en tête, mais dans toute ma vie en général, quoi. Un truc que j'ai déjà utilisé, mais c'est vraiment débile, hein. Mais de si vraiment c'est. De sentir que si vraiment à un moment c'est chaud pour moi. de sortir un truc du style oui, comme ça, placé dans la conversation à mon père, mon oncle, je sais pas qui, est flic, alors je sais pas quoi, enfin, et que du coup, je pense que ça calme les gens, quoi. Et j'ai déjà sorti ça à un type qui me faisait chier dans la rue, mais vraiment où je sentais que c'était hyper chaud pour moi, et qu'il était 4h du matin, et qu'il me tenait par le bras et tout ça. Et là, je lui ai dit ça, et ça l'a calmé, quoi. Enfin, en baratinant, enfin, avec de l'assurance, quoi. Et voilà, alors j'ai toujours. Un peu cette histoire en tête où je me dis si jamais je sens qu'à un moment c'est vraiment hyper chaud pour moi, et ben je vais sortir ça et peut-être ça va le calmer un peu, quoi.
Ouais, moi j'ai un peu la même stratégie par rapport à l'habillement, je l'ai déjà dit avant, donc j'adopte un peu des clichés de comportement masculin, des trucs d'assurance, des trucs tout en essayant d'avoir l'air souriante et tout, quoi, mais de pas me laisser marcher sur les pieds ou... Et aussi le truc, les quelques fois où j'ai senti que ça pouvait dériver vers des trucs un peu glauques ou un peu chelous, c'était de vachement parler de mon entourage, de dire que j'avais des amis dans telle ville qui m'attendaient à telle heure, montrer que j'étais entourée, que j'avais des relations, que j'avais des amis, et qu'ils sachent que si jamais j'étais pas à l'heure, bah il allait peut-être y avoir quelqu'un qui allait appeler les flics, qui allait s'inquiéter pour moi, enfin que j'étais pas juste une fille qui erre comme ça sur la route.
Ouais, moi à partir du moment où j'ai fait du stop, où j'avais un portable, j'ai déjà fait ce truc de par exemple envoyer un texto et dire et placé dans la conversation, ah bah tiens, c'est bien, je vais pouvoir envoyer un texto à mes amis que là je suis en route avec quelqu'un et que je vais pouvoir arriver vers telle heure. Placer un bobard comme ça et le faire en faux, quoi. Ouais, moi sur la stratégie de l'habillement, je trouve ça compliqué parce que en général, je suis dans une espèce de truc de me dire je veux clairement que ça se voit que je suis une fille, que j'ai l'air sympa. Après, j'essaie plus le truc par exemple. C'est plus un peu pour les bourges et machin, t'es d'avoir l'air propre, plutôt de la jeune étudiante, genre de pas être habillée tout en noir, de sourire, tout ça, et du coup d'être dans des trucs plus féminins et que clairement ça se voit que je sois une fille, tout en n'étant pas trop féminine, et après du coup j'ai l'impression de contrebalancer, quoi, espèce de truc de... Clairement, genre, pour comprendre, parce que aussi, moi, le truc dans le stop, c'est que je déteste attendre, quoi, et je me rendais compte que j'ai pas tous les mêmes normes par rapport aux gens, et que finalement je me fais prendre... assez vite, enfin ouais, si je compare, j'imagine, à des mecs ou à des mecs seuls machin, ou même des filles avec qui j'ai déjà fait du stop qui sont moins entreprenantes dans le truc allez prenez-moi, et qui me disaient ah on va vite, alors que moi ça me paraissait non mais c'est logique, quoi, moi sinon ça me fait trop chier. Et du coup, en fait, ça fait que dès que je monte dans la voiture, et ben j'essaie de renvoyer le message complètement différent, quoi. Et du coup, c'est compliqué, quoi, espèce de truc de... Non, mais si, c'est vrai, ou du coup, je sais pas, je m'assois trop en écartant les jambes, c'est de parler avec une voix grave, je sais pas, d'être un peu... de faire plus crade, de... ouais, j'en sais rien, quoi, de pas avoir l'air trop... d'arrêter de sourire, enfin, je sais pas, en fait, c'est espèce de truc où là, je change de message, quoi, je ne suis plus une fille.
Ouais, enfin, stratégie de l'habillement, mais moi aussi, ça dépend vachement de quelle distance je dois faire. Enfin, je sais pas si c'est des grandes distances et que je me dis potentiellement, ben, ça va me prendre toute la journée, j'ai pas envie de faire la nuit, et ben, je vais peut-être plus m'habiller un peu féminine, mais enfin, juste qu'on voit juste que je suis une fille, quoi, mais sans être vraiment féminine, quoi. Et comme ça, en me disant, oui, j'ai l'air ça de la jeune étudiante sympathique, mais bon, voilà. Alors que c'est des petites distances et que par exemple c'est des petites routes de montagne ou des endroits assez isolés mais que c'est pas très long, bah là je m'en fous parce que je me dis bon bah si je pars tôt, et ben au pire je mets du temps mais c'est sûr que je vais arriver le soir.
Pour ne pas être emmerdée, je sais pas trop, mais je trouve que si on commence de m'emmerder, je vais dire comme par exemple il y avait une fois où il y avait un mec qui m'a dit ah tiens je vais t'amener chez mon copain, on pourrait boire du coup ensemble. Et je lui ai dit, ah non, ça m'intéresse pas. Et il m'a dit, ah, mais c'est pas loin, blablabla. Et on était toujours sur l'autre route. Et donc, du coup, il était en train de sortir et il était comme, mais je pars, je vais t'amener et plus tard, je vais t'amener où tu veux aller. Et je lui ai dit, d'accord, mais maintenant quand tu me dis ça, de toute façon, il faut que tu saches que moi, en tant que femme, je suis vraiment toute seule, je suis vraiment pas vraiment forte. Si tu sors de cette autre route, moi je vais faire n'importe quoi. J'ai aucun souci de me défendre et j'ai aucun souci de te blesser ou même de te tuer. Mais j'ai pas dit te tuer, mais j'aurais dit que... j'ai aucun souci de faire n'importe quoi à lui, parce que pour moi, ma santé, mon corps était le plus important. Et il m'a dit, D'accord, et il s'est arrêté tout seul en fait. Et une autre fois, un mec, j'étais avec une copine qui dormait et un mec me touchait le sein. Je lui ai dit, j'avais pas vraiment peur parce qu'elle était là, même si elle dormait, mais j'avais plus peur parce qu'il est sorti de son camion et il a fait beaucoup d'appels sur son téléphone et on était vraiment, vraiment dans le désert. Et donc moi, j'avais peur par rapport à ça et donc je lui ai dit, oui, mais tu peux t'arrêter maintenant, on va sortir. Et lui, il m'a dit, ah non, non, je vais continuer, je ne peux pas m'arrêter ici. Et puis j'ai commencé à avoir peur parce que, en fait, parce qu'il y avait vraiment personne, il n'y avait même pas les voitures. Et du coup, je l'ai pris par les cheveux et il ne pouvait plus voir, en fait, parce que j'ai tiré les cheveux et du coup, il ne pouvait pas voir. Et je lui ai dit, avoir un accident avec ton camion, mais j'étais vraiment méchante tout dans un coup. Avant, j'étais comme, non, mais s'il vous plaît, c'est pas gentil de me toucher le sein, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment merdique pour toi de faire ça, blablabla, pourquoi tu penserais que tu peux faire ça à moi? Il était comme, je sais pas, et puis... Et puis je l'ai arraché par les cheveux, il ne pouvait plus le voir. Et je lui ai dit, tu veux frapper ton camion ou quoi? Et puis il avait vraiment peur, il a essayé d'enlever ma main, mais en fait il ne pouvait pas parce que j'étais vraiment derrière de lui. Et du coup, il a mis ses freins vraiment, vraiment vite. Et donc je laissais ses cheveux et il tremblait à fond et c'était vraiment drôle en fait parce qu'il avait tellement, tellement peur et donc on est sortis et c'était plutôt drôle parce que je me disais peut-être il va rien faire la prochaine fois, il va penser avant de faire ça à une autre femme peut-être, mais il est parti. Je crois que tu peux faire, s'il y a qu'un mec, je crois que tu peux vraiment leur obliger de faire ce que tu veux.
Ouais, mais je pense en général c'est un bon truc d'autodéfense, ce truc que les mecs ils tiennent plus à leur bagnole ou à leur camion qu'à toi, quoi.
Ouais.
Après, moi, ça m'aurait fait flipper ton truc du fait d'avoir un accident, quoi. Mais je pense que... Enfin, ce truc, en général, si t'es en train... les menaces de tracher leur caisse ou leur camion ou je sais pas quoi, ça les fait flipper parce que au final ça compte quand même vachement à leurs yeux, quoi.
Et aussi, je savais que, en fait, les camionneurs, normalement, ils ont pas le droit de prendre le passager, de prendre le voyageur et de stopper. Et du coup... Si ils ont un accident à cause d'une stopper parce qu'il a agressé le stopper, ça va pas du tout, ça va vraiment, vraiment pas du tout. Et les camions sont vraiment, vraiment chers et du coup, ils vont perdre le travail, ils vont perdre tout.
Sinon, comme autre stratégie, moi, il y a le truc que je monte jamais seul dans une voiture avec plus d'un chauffeur, quoi. Enfin, plus de deux personnes. Voilà, à la rigueur des couples, quoi.
J'étais avec une pote et en fait, on était dans la campagne, enfin bon, on connaissait pas du tout la région. Et du coup, il s'arrête, on avait un panneau, et il s'arrête, et puis il avait les vitres arrière teintées, il était torse nu en train de boire une bière, et puis il fait « Je vous emmène les filles !» On fait « Bah, vous allez où ?» Il dit le nom d'un bled, et nous on dit « Bah, c'est sur la route de... » On donne le nom de l'autre bled où on allait. « Bah non, mais ça vous avancera quand même, enfin, je sais pas trop. » Bon, ça ira, quoi. Mais là, c'était tellement clair que bon, il était relou, enfin, tellement clair que, enfin, en tout cas, de... Premier abord, il était relou, du coup, voilà. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de monter avec deux gars, quoi. Mais après, de me laisser, ouais, un type, une fois, qui m'a pris, il a fait Nantes-Dijon. J'ai fait Nantes-Dijon avec lui, il m'a payé le resto sur l'autoroute et tout ça. Mais voilà, il était con, mais c'était un bon père de famille. Et enfin, comme on avait déjà fait pas mal de routes avant qu'il s'arrête pour manger, je sais pas, j'avais l'impression que ça le faisait. Et puis
Alors aussi, je me dis qu'il y a quand même des signes et qu'effectivement, faut pas ranger tout le monde dans le même sac. Et enfin, qu'il faut se faire confiance à ses intuitions, en fait. Et que quand si on sent que ça va être des gens relous, là, comme tu racontais, on le sait. Alors éventuellement, on peut quand même choisir de monter dans cette voiture alors qu'on sait que ça va être une personne relou. Mais quand on sait qu'on a décidé, et puis on sait que les raisons qu'on a, elles sont plus importantes, ou je sais pas. Enfin, de se faire confiance, quoi, ça...
Ouais, ou ce truc d'être hyper clair dès le début, si on est déjà monté, de... En fait, je vais descendre là, même d'inventer... Moi, je pense d'inventer des prétextes, ça marche toujours. Je sais pas, j'ai trop envie de vomir. Ah, faut absolument que je passe un coup de fil, vous pouvez me laisser à la station. Ah, si, moi, j'ai une stratégie, mais... C'est pas hyper important pour ça, mais c'est juste un truc à la con pour les gens en fait qui conduisent trop n'importe comment. Et en fait non, et qui conduisent super vite, espèce de truc de si tu leur dis, ils disent toujours mais non, je gère, ou alors ils se vexent parce que comment ça, ils roulent trop vite, machin, c'est hyper compliqué. Et c'est le truc de faire là traumatisé de l'accident de voiture et de raconter un truc horrible. En fait, c'est mon frère, quoi, parce qu'il racontait, imagine, il avait raconté que sa sœur et son père étaient morts dans un accident de voiture. Et du coup, je me suis dit, je vais le reprendre.
What's going on here? Why are you looking at me like that? What do you want from me? Who are you? Are you in charge here? Do you have any credentials? Can I see your ID? Where did you come from? Does your mother know where you are? Who let you in? Did you pay your admission? Do you have a bank account? Can you spare some change? Do you think money goes on trees? Do you understand what I'm saying? Do you know where I'm coming from? How many people came before me? How would you feel if you were in my shoes? Have you seen me before? Do I look familiar? Do you come here often? Can I buy you a drink? Have you ever been in love? When was the last time you had sex? Do you masturbate? Can I touch you? Do you have any artificial limbs? Do you have any STDs? Are you HIV positive? When was the last time you were tested? Do you bleed? Are you pregnant? Are you a man or a woman? Why don't you leave me alone? Are you getting hysterical? Are you on the rag? Are you a lesbian? Is that why you won't have sex with me? Is this your first time?
Chut. On est à l'antenne, c'est ça? Ah oui, on est à l'antenne. Ben voilà, on était complètement étourdis, donc on était en train de faire le point. C'est pas grave, hein, c'est les petits aléas des émissions de radio.
Vous êtes donc bien sur Dégenré, l'émission pour déranger.
Pas encore tout à fait professionnel, c'est ça.
C'est beau l'amateurisme.
Et du coup, on vient d'écouter un morceau de Good Is My Copilot, tiré de l'album Sex Is For Making Babies. Le morceau s'appelait Interrogation, et alors on trouvait ça chouette de le mettre. C'est un peu toute la série d'interrogations et de questions que les mecs se permettent de nous poser quand on est une femme qui vient de est-ce que t'es mariée, est-ce que t'es lesbienne, est-ce que t'as pas peur, est-ce que tout et n'importe quoi. Et voilà un peu en gros.
Alors moi, je voulais bien revenir un peu sur là, ces dernières minutes d'émission où du coup, voilà, on a le texte de Virginie Despentes nous a fait un peu parler de viol et finalement, on a, voilà, on n'a pas le temps d'en parler complètement. Il faudrait une émission entière pour évoquer un peu tout ce qui peut avoir lien à ça. Donc on en a parlé très rapidement. Peut-être on a eu le sentiment après qu'on n'avait pas dit tout ce qu'on aurait pu dire, qu'on n'avait pas pu tout développer. Alors on s'excuse de ça. Et ces témoignages, donc ces enregistrements de témoignages sur les différentes stratégies mises en place. Alors, pour compléter un peu ce que nos amis nous ont raconté sur leur stratégie, Amélia, tu voulais peut-être un peu donner quelques conseils d'autodéfense.
On a envie aussi de terminer quand même sur une note où on n'est pas, je dirais quelque part, on subit pas ce qui se passe et on peut être actrice de ce qui se passe, quoi.
Ouais, voilà, du coup, c'était un peu pour recompléter ou redire des trucs que vous avez aussi un peu entendus dans les stratégies, redonner quelques conseils. Alors, d'abord, le premier truc, c'est qu'avant de monter dans la voiture, se dire qu'on peut toujours refuser si on ne sent pas la personne. Ou par exemple, s'ils sont plusieurs et qu'on décide qu'on n'a pas envie de monter avec plusieurs mecs dans une voiture. Et c'est important de faire confiance aussi à ses ressentis, quoi. Parce que, bon, sans aller, on va pas avoir peur de tout le monde, mais des fois, il y a des personnes, on les sent pas, et on peut s'écouter, peut-être on attendra un peu plus. Et voilà, et du coup, on peut toujours dire non. Donc, avant, vérifier si la personne va bien là où on veut, et obtenir une réponse claire. Comme ça, on pose déjà les choses. Dans certains cas aussi, on peut ne pas avoir de pancarte, par exemple le péage demandé directement. Et du coup, si nous, on demande déjà où va la personne, si jamais elle nous plaît pas ou j'en sais rien, on peut toujours dire « Ah bah, c'est pas du tout ma direction ». Mais sinon, en fait, pas hésiter à inventer n'importe quel prétexte, même tout simplement dire « Ah bah, finalement, j'ai changé d'avis ». Et alors, on va hésiter à faire ça parce qu'on se sent conne, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, l'automobiliste, il va pas rester là 15 ans à nous prendre la tête. Hein. Lui, il a sa route à tracer, donc si on lui dit non, voilà, c'est non, quoi. Une fois qu'on est dans la voiture, Eh ben, déjà, on peut placer assez vite dans la conversation qu'on est attendu. Par exemple, si on a un portable, on peut soit en vrai, soit faire semblant, appeler nos amis pour dire « Ah, ben, ça tombe bien, là, j'ai été prise dans telle ville, du coup, j'arriverai bientôt. » Envoyer un texto et le signifier « Ah, c'est cool, vous m'avez pris, je vais envoyer un mot à mes amis. »
Et peut-être même, si vraiment on a envie d'aller loin dans le... Moi, au téléphone, pour de vrai ou pour de faux, dire « Oui, bah, j'ai été prise par un monsieur très gentil, il est représentant à l'usine machin chouette. » Oh là là, parler en fait, le décrire, ce qui peut donner, enfin, dissuader le type de faire quoi que ce soit, parce qu'il y a des gens qui ont sa description, je sais pas.
Ouais, ouais, carrément. Et c'est pour ça que c'est bien, de toute façon on l'a dit, souvent quand on est seul on a tendance à plus parler, parce que aussi faire parler la personne c'est obtenir des renseignements, et puis aussi quand c'est nous qui posons la question, c'est plus nous des fois qui menons la discussion, ce qui évite des fois de se faire embarquer direct dans subir un interrogatoire quoi. Donc ne pas hésiter à lui poser des questions à lui quoi. Si il commence à partir sur des choses, des paroles qu'on trouve déplacées, quoi, des allusions pas très claires, quoi, pas de rapport là, avec la situation, juste on fait du stop, et ben faut pas hésiter à être ferme et surtout à dire clairement ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Je sais pas moi, non, je veux pas que aller boire un coup avec vous, je veux aller à tel péage, à telle station, à telle ville. Enfin, poser vraiment fermement les choses. Et si aussi il commence à être plus dans le « Ah, mais vous avez pas peur, mais quand même, une fille toute seule, vous devriez avoir peur, etc. » Et ben affirmer très clairement que non, pourquoi on serait censé avoir peur, on sait se défendre et voilà, avoir l'air sûr de soi, parce que effectivement ben je sais pas, il sait pas si on est armé ou pas, il sait pas si on est ceinture noire d'art martial, si on a fait de l'autodéfense, et ben avoir l'air sûr de soi peut-être ça peut le dissuader. Et dans tous les cas, ben, s'il continue d'être lourd et qu'on ne se sent pas confortable, on n'est pas obligé de rester dans cette situation. On peut trouver n'importe quel prétexte pour lui demander de s'arrêter. Que ce soit l'envie de vomir, envie de pisser. C'est clair, faut savoir... Le premier truc, c'est que le mec, quand même, en général, tienne plus à leur caisse, enfin, leur voiture qu'à nous, quoi. Du coup, il n'aura pas spécialement envie qu'on vomisse dedans. Si on est comédienne, on peut même se lancer vraiment dans une simulation de « on va vomir ». Et voilà, à lui demander clairement, là vous m'arrêtez à la prochaine station, vous m'arrêtez même sur la bande d'arrêt, enfin j'en sais rien comment on le sent, mais en tout cas il s'arrête quoi. Bon, si ça suffit toujours pas, on peut commencer à tracher sa voiture. Alors on ouvre la fenêtre, on prend ses papiers, on les balance dehors, enfin il sera bien obligé de s'arrêter pour faire quelque chose, du coup on reste pas dans cette situation, nous après on s'enfuit, il peut y avoir des témoins, etc. quoi. On peut, si on a un briquet, commencer à mettre le feu quoi. C'est pareil, il va pas continuer comme ça. Bon, ne pas faire des trucs qui mettent en danger au niveau de la conduite, parce que bon voilà, on est avec lui dans la voiture, et du coup oui, ce truc que les mecs ils tiennent plus à leur voiture, donc si on commence à tout balancer, etc., peut-être lui aussi il faudra qu'il se justifie en rentrant auprès de sa femme de pourquoi le siège de la voiture est complètement cramé, enfin ce genre de choses. Voilà, et du coup ne pas tout le temps se prendre la tête sur des trucs comme ah mais qu'est-ce qu'il va penser si je lui demande de s'arrêter, il va penser que je crois qu'il est pas cool. Enfin le plus important c'est de pas rester dans des situations où on se sent pas bien et de pas laisser monter la peur quoi. Si on commence à sentir que là on va paniquer, que ça va pas, et ben on s'arrête et on trouvera une autre voiture. Bon voilà, c'était un peu des conseils de base, parce que après pour bon, si dans des situations on va dire plus compliquées, faudrait bah le mieux c'est par exemple de faire un stage d'autodéfense. Non, c'est ça.
Non mais c'est vrai que pour tout ça on peut s'entraîner quoi, pour tout avoir tous ces réflexes là.
Oui, effectivement, parce que quand je dis rester ferme, etc., je dis pas que c'est l'air sûr de soi, je dis pas que c'est obligatoirement facile, mais voilà, on peut s'entraîner. Et du coup, juste pour vous dire, il y a des stages d'autodéfense pour femmes et organisés par des femmes qui sont faits sur Grenoble, mais aussi pour celles qui nous écoutent dans d'autres villes, c'est possible. Et alors, par exemple, à Grenoble, il y en a un le 6-7 janvier. Et le mieux, ben, pour vous renseigner en général sur les stages ou vous inscrire, c'est d'écrire à femdochi, ça s'écrit F-E-M-D-O-C-H-I, @no-log.org. Donc je répète, femdochi@nolog.org.
Et c'est vrai que s'entraîner, c'est vachement chouette parce que ça permet effectivement de tester avec quel volume de voix quand je parle, ça va avoir plus de force. Et puis, comme c'est les entraînements collectifs avec plein d'autres filles, ça permet aussi d'échanger les stratégies et de se sentir moins seule. Enfin, moi, je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée, ces entraînements d'autodéfense.
Ouais, alors moi, en conclusion, j'avais envie de retirer une idée vraiment qui me semble essentielle parce que là, voilà, on parle de comment éviter les agressions, donc on donne des informations pour ça et tout. Mais il faut bien se rappeler que même s'il nous arrive quelque chose, parce que, nous arriver quelque chose, ça peut être se faire poser la main sur la cuisse, déjà, ça peut être traumatisant, ça peut être se faire blablater de manière super, dégueulasse, super désagréable et tout ça. Enfin, voilà, à des choses vraiment plus trash comme le viol ou quoi, c'est des choses qui peuvent nous arriver. Et pour ça, moi, j'ai vraiment envie de redire, c'est pas de notre faute. C'est vraiment pas de notre faute. C'est-à-dire que même s'il faisait nuit, même si on était en mini-jupe, parce que ça, c'est vachement vite retourné. Dire, oui, mais déjà, vous savez que le stop, c'est dangereux. En plus, là, vous avez continué alors qu'il faisait nuit. Ah bah oui, mais là, faudrait peut-être replacer les responsabilités. C'est bien là où les personnes qui commettent une agression, et nous, on essaye de vivre, on essaye de se déplacer, etc. Et du coup, en aucun cas, c'est de la responsabilité de la personne ce qui lui arrive, quoi. Et du coup, faut jamais culpabiliser parce qu'en faisant du stop, on s'est fait prendre la tête, on s'est fait agresser ou quoi. J'ai l'impression que c'est hyper important de s'enlever cette culpabilité et de replacer les responsabilités, quoi.
Oui, ou pour n'importe quel interdit qu'on peut avoir en tant que femme, que ça soit se balader seule la nuit, etc., quoi.
Les responsables, ce sont les agresseurs. Alors, sur cette affirmation qui fait du bien à entendre et qui était nécessaire, on va se dire au revoir. Avant la fin totale de l'émission, on va écouter deux petites anecdotes qui sont très très rapides. Et on se retrouve bientôt pour une émission dégenrée, l'émission féministe pour déranger.
Et le morceau de fin sera un morceau de Stéréototal, Partir ou mourir.
Que ça me fait super plaisir quand c'est des filles qui me prennent et qu'elles me disent que je sens une espèce de truc ou qu'elles me le disent qu'elles prennent pas d'autostoppeuse d'habitude et que du coup quand même elles se sont arrêtées, je me dis peut-être elles en prendront d'autres et tout ça et je crois à chaque fois ça me fait une sorte de victoire.
Peut-être mais il y avait une femme qui m'a pris une fois aux États-Unis et c'était vraiment drôle parce qu'elle me dit je prends jamais des stoppeurs mais comme t'es une femme, je me disais, je peux me battre contre elle si je me soir. Et ça me faisait trop rire. Ouais, juste de rester avec les gens la nuit, ça c'est vraiment chouette, et de rencontrer leur famille et de manger avec eux et de rencontrer des gens qui je rencontrerai jamais dans ma vie.
Sous la pluie, tout droit et sans détour, tout droit, toujours tout droit, la peur nous.